La monnaie de main en main. Premier épisode. Retour sur l'euro. Martine Abad.
Je me souviens que le 31 décembre 2001, j'accueillais chez moi deux amies mexicaines qui pensaient que le passage à l'euro était une plaisanterie, que ça n'allait pas se faire, que c'était impossible, que nous étions des fous. Et le 1er janvier 2002 au matin, elles voulaient être témoins de l'histoire et elles m'ont accompagnée au distributeur pour retirer les 20 euros alors autorisés, soit 131 francs et 20 centimes. Cet événement majeur dans nos vies européennes a eu une implication concrète pour la monnaie de Paris, fabriquer des millions de nouvelles pièces. Comment les euros furent dessinés et créés? Et plus généralement, comment la monnaie fait l'objet de longues réflexions de la part de celles et ceux qui l'imaginent? C'est ce que nous allons vous raconter dans cette première immersion à la monnaie de Paris. Et tout d'abord avec Joaquin Jiménez, graveur général de la monnaie.
Le graveur général, c'est comme le responsable de l'atelier dans le temps, il a un poinçon. Il appose à toutes les monnaies qui sortent de l'atelier, qui sortent de la monnaie de Paris, sont différents, ce qu'on appelle un différent. C'est un poinçon. Le mien, ce sont deux carrés qui sont les initiales de mon nom, l'un dans l'autre. Et puis à l'intérieur, on a stylisé une tête de rhinocéros. Pourquoi un rhinocéros ? Parce que c'est une bête rare. C'est pourquoi je ne suis pas une bête rare, mais dans mon différent, il représente l'atelier de gravure. Dali le qualifiait, lui, de coffre-fort animal des connaissances. L'atelier de gravure de la monnaie de Paris, c'est un peu ça. C'est un coffre-fort des connaissances anciennes qu'on apprend toujours aujourd'hui, hein, qu'on transmet, mais qui sont, si on ne fait pas attention, en voie de disparition, exactement comme le rhinocéros. Et donc, en tant que graveur général, vous apposez votre différence sur les pièces. C'est exactement comme sur les billets, vous avez les petites signatures, là. Bon, ben voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que ça atteste que pendant la période où moi, je suis graveur général des monnaies, et donc c'est une période de ma prise de fonction à l'arrêt de mes fonctions, où cette pièce que vous avez dans les mains est bien sortie de l'atelier de gravure. Donc c'est à la fois dans le temps et la responsabilité du fait que ce ne soit pas une copie, tout simplement.
Donc les archéologues dans 1000 ans qui trouveront une pièce de 2 euros avec votre rhinocéros,
exactement,
sauront que c'est vous, monsieur
Jiménez. C'est, ouais, exactement, exactement. Et ça me fait plaisir, mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer.
Le bureau de Joaquin Jiménez à la monnaie de Paris, Quai Conti, fait face au magnifique Pont Neuf. C'est là sa tour de contrôle sur les ateliers de Pessac, en Gironde, qui fabriquent nos pièces de monnaie en circulation, ainsi que sur les ateliers de Paris, qui fabriquent les pièces de collection. Il en dirige toute la conception et la création avec ses équipes. Il est le 30e graveur général depuis François Ier. Et nous avons tous un peu de son travail dans nos poches, puisque c'est lui qui a dessiné la face nationale de nos pièces de 1 et 2 euros. Il nous rappelle comment cela s'est fait il y a 20 ans.
Le franc est finissant et on va avoir une monnaie qui est européenne. Alors le concours s'ouvrait à tous les Français designers, etc., et étrangers vivant en France. Voilà. Donc c'était très 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 ouvert. On savait que chaque pays allait avoir une face dédiée et puis un revers commun. Donc c'était un concours international, en France en tout cas, et on était nombreux. Donc le gagner, c'était quand même assez marrant. Mais finalement, le concours lui-même, son libellé, était assez vaste. Hein.
C'était quoi?
C'était vaste, c'était représenter la République dans l'Europe. Allez-y, messieurs, dames. C'était... Et donc je me souviens même avoir concouru en préparant une thématique sur l'architecture, donc en passant de la plus ancienne à la plus contemporaine. Et puis, je me rends compte, au dernier moment, je crois que c'était 2 jours avant de rendre le travail, donc j'avais énormément travaillé, pour me rendre compte que les billets de banque, finalement, qui sortaient en même temps, et dont le concours avait eu lieu, étaient sur ce thème, de l'architecture. Donc vous imaginez bien que mon projet, il était à mettre à la poubelle. Et donc paniqué, en deux jours, j'ai sorti, enfin paniqué non, je me suis reconcentré et je me suis concentré sur la pièce de 1 et 2 euros pour en sortir l'arbre que vous connaissez tous, voilà, un arbre européen qui a gagné le concours. Alors, cette pièce de monnaie représentait, alors dans mon projet, un arbre et, dont les racines étaient dirigées vers les étoiles de l'Europe. Donc, l'arbre prenait racine en Europe, se développait et toutes les feuilles et les branches étaient dirigées vers les autres étoiles. Voilà. Donc, c'est un arbre européen. Et ensuite, alors, il y a le fond de l'hexagone, évidemment. Il est pris dans un hexagone. Il y a le RF, liberté, égalité, fraternité, voilà. Et aussi, ce qui est très important pour moi et qui était peu commun dans tous les autres pays, c'est que toutes les étoiles étaient reliées entre elles. C'est pour moi, le symbole était l'arbre de la France, enraciné en Europe, tendu vers les autres pays de l'Europe.
Tous reliés
pour faire ce qu'on appelait finalement l'Europe. Hein, depuis Monet, on y penchait, et avant lui. Hein. L'Europe, hein, les premiers Européens, c'est Charlemagne. Hein, c'est assez monstrueux comme histoire. Et enfin, on avait un vrai projet, on y allait, quoi. On y allait, et ça commençait par la monnaie, c'est extraordinaire. Voilà. C'est l'arbre de Saint-Louis, c'est les arbres de la Révolution, c'est un être aussi qui a une capacité de résilience absolument incroyable et qui, même quand ça ne va pas, brûle, peut repousser. Hein, c'est voilà, tout simplement. Et notre histoire relativement récente, parce que l'histoire du XXe siècle et du XIXe n'est pas si rose que ça pour nous, et pourtant, toujours là, la République est là et ça fonctionne. Voilà. Bon an, mal an, mais ça fonctionne.
Et lorsque vous créez cet arbre-là, que vous l'imaginez, vous vous détachez quand même complètement de cette semeuse qu'on a connue.
J'aurais pu faire une Marianne, mais c'était pas mon but. C'était, on va vers l'Europe, pourquoi continuer avec un symbole numismatique franco-français ? Il me fallait un symbole européen, avec des racines françaises. Donc les racines, voilà, racines de l'arbre. C'est un être qui pousse de sa naissance à sa fin constamment. C'est un être vivant qui a, moi le vivant c'est très important pour moi aussi, son respect aussi, et qui porte des fruits. Tous les éléments sont différents, il y a les branches, il y a les feuilles, c'est un composite, c'est un peuple, un arbre, avec ses racines, il va puiser sa sève dans les racines de l'Europe, et puis bah, il étend ses fruits, il donne ses fruits à toute l'Europe aussi. Finalement c'est un joli portrait de chaque pays. La monnaie française, par exemple, c'est la plus petite partie du trésor national que vous pouvez avoir dans la main et que vous pouvez passer de main en main. C'est un lien, voilà, et qui veut dire beaucoup de choses, qu'à l'esprit français, voilà. Eh bien, tous les pays du monde, c'est pareil. Vous pouvez, c'est un concentré de l'esprit du pays dans lequel vous avez finalement.
Sa quintessence.
C'est ça, un concentré.
L'usine de Pessac en Gironde fabrique nos pièces courantes. C'est un site ultra sécurisé qui abrite une production industrielle destinée à la France et à des pays étrangers. Les salariés se souviennent de la période d'intense activité qui a secoué l'usine pour préparer le passage à l'euro.
Yann, je suis technicien de maintenance. Je répare les machines, je règle les machines et des fois j'améliore les machines.
Et donc vous étiez là au moment du passage à l'euro ?
Exactement. Il fallait beaucoup de monde, donc j'ai fait partie des gens qui ont été embauchés pour ça. On a passé le concours et puis on est rentré à la monnaie. Quand je suis rentré, il y avait des pièces de monnaie partout. On commençait déjà à détruire des pièces de francs. Et donc on détruisait les mêmes pièces qu'on avait dans le porte-monnaie. Donc ça, au départ, ça fait bizarre. Et après, par contre, c'est vraiment sympa de vivre le début de l'euro, quoi. Parce que nous, on connaissait les pièces en avant-première, on pouvait pas forcément les montrer. Mais c'était, oui, pour ça, c'est une fierté, oui. C'est impressionnant le volume de pièces. Et c'est une échelle dans la vie couronne qu'on ne peut pas comprendre.
Michel Pagnac, aujourd'hui à la tête du monnayage, c'est-à-dire l'atelier de frappe, travaille depuis 30 ans dans l'usine de Pessac.
Le passage à l'euro a fait stopper certaines fabrications pour recentrer la fabrication sur la frappe. Et on est passé d'une production annuelle d'environ 800 millions à 1 milliard de pièces à près de 3 milliards. Ça représentait entre 10 et 15 millions de pièces tous les jours. Plusieurs dizaines de tonnes qu'il fallait stocker. Au 1er janvier 2002, on avait, je crois, 7 milliards de pièces prêtes à être distribuées.
Armel Guglielmino, responsable de la production de l'usine.
Le 9 décembre, donc, notre PDG a présenté officiellement, donc avec Emmanuel Macron, la nouvelle face pour nos bicolores. Nos 1 et 2 euros pour leurs 20 ans sont revus, sont refaites, sont plus modernes. Et donc à partir du 1er janvier, on va pouvoir avoir dans nos poches 1 euro et 2 euros avec une face différente.
Vous êtes déjà en train de les fabriquer ?
Donc on a commencé à les frapper en septembre. On était tous très contents d'avoir ces nouvelles faces, mais il fallait n'en parler à personne, le montrer à personne, pour être sûr que le secret ne soit pas divulgué. Ça changeait, oui, de l'ordinaire, et ça donnait une petite ambiance un peu particulière, quoi.
Merci. Donc ça, c'est la nouvelle pièce de 2 euros. Les deux symboles qu'on retrouve beaucoup sur les monnaies françaises, la feuille de laurier et la feuille de chêne.
Et il y a toujours quand même l'idée de l'arbre.
L'arbre de vie.
Ouais. Il y a une familiarité avec l'arbre, mais c'est
Puis tout en courbe.
Et là, depuis septembre, vous en avez produit combien de millions ?
10 millions. Donc 10 là. Et puis les prochaines, on va les faire en janvier. Donc il n'y en a pas beaucoup. Pour le moment, évidemment.
De conservation préventive voudrait que je prenne des gants pour le faire. Je peux vous dire quelle est la monnaie que je préfère, quelle est celle qui me fascine le plus. Il y en a une que j'aimerais bien posséder, je peux vous la montrer si vous le souhaitez. Alors maintenant, il faut que je la retrouve.
Au travers d'une monnaie, on peut raconter l'histoire sociale, politique, économique, industrielle et même artistique d'un pays. Dominique Antérion est chargé de conservation des collections à la Monnaie de Paris. Une collection qui abrite plusieurs milliers de pièces de toutes les époques et de tous les pays. Il en connaît pour chacune les origines, la provenance, la symbolique, les péripéties. Et il sait à quel point une monnaie est liée à l'histoire d'un pays et à son identité.
L'euro, c'est une étape dans un processus qui est déjà vieux. Parce que l'idée de monnaie unique, c'est une idée qui a toujours, toujours traversé l'humanité. Alors de manière, des fois par la force, on impose une monnaie. Oui, mais au final, tout le monde s'y retrouve, parce qu'on compte tous de la même manière, on dirait bien. Parfois, par la volonté de traiter avec un autre État en disant « est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ?» Dès le XVIe siècle, vous avez des écrits qui disent « mais il faudrait de la monnaie unique ». Au XIXe siècle, Victor Hugo dit « l'idéal, ce serait une monnaie unique ». Mais ce rêve-là, tout le monde l'a à un moment ou à un autre. Donc le passage à l'euro, pour moi, je le voyais comme une étape logique, en fait. Et très sincèrement, l'étape suivante, ce sera quoi ? Ce sera une monnaie globale. Au même titre qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, le mètre est une unité globale. On aurait peut-être aimé que ce soit le franc qui soit la monnaie globale. Les Espagnols, eux, ont eu presque leur monnaie globale avec la pistole. Les Italiens l'ont presque eu au Moyen-Âge avec le florin, avec le sequin, qui étaient des monnaies globales. Les États-Unis, c'est presque une monnaie globale avec le dollar. D'ailleurs, le dollar, le type de billet de 1 dollar, il n'a pas changé depuis 1963. C'est pas un hasard. C'est que surtout, ne touche pas à quelque chose que tout le monde connaît et qui circule.
Si la monnaie a marqué notre histoire, elle a aussi marqué notre vocabulaire. Petit inventaire des mots liés à la monnaie.
Connaissez-vous l'expression « avoir maille à partir » ? Vous l'entendez peut-être de quelqu'un qui a maille à partir avec la justice. Mais savez-vous que cette expression est profondément liée à l'univers monétaire ? Une maille, en effet, était une toute petite pièce, une subdivision d'une monnaie quant à elle appelée denier. Cette pièce était si petite que l'on avait du mal à en partager la valeur. D'où l'expression « avoir maille à partir », c'est-à-dire à partager. Lorsque, par exemple, deux personnes voulaient se partager la valeur d'une maille, vu l'impossibilité du fait, eh bien, ils se querellaient. On peut penser aussi aux centimes d'euros. Comment voulez-vous partager un centime d'euro entre deux, voire trois personnes? On ne peut pas partager cette pièce de monnaie. Voilà l'expression « avoir maille à partir », avoir des difficultés, se disputer, se quereller.
La monnaie, de main en main. Un podcast du Monde avec La Monnaie de Paris, une production Wave Audio.